Bonjour à tous. Alors c'est un atelier. Et un atelier un petit peu différent. J'ai du mal avec l'atelier. L'atelier, c'est là où on fabrique quelque chose. Je propose que la matière première, ce soit nous. Que le rabot ou le tour, ce soit la parole de Dieu, et que le potier, eh bien, ce soit le Seigneur qui nous façonne à sa ressemblance. Alors, j'aimerais donner une introduction sur ce sujet, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, notre solution. Et puis, après, vous laissez la possibilité, si ça a évoqué des questions, eh bien de poser vos questions tout à fait librement, et puis ensuite d'essayer d'y répondre. Alors, je peux essayer de le faire, mais certainement peut-être d'autres auront des occasions de répondre. Si vous souhaitez la parole, n'hésitez pas à la demander. Et puis, si vous avez vécu des choses, si vous voulez témoigner de certaines réalités, de solutions que vous avez trouvées dans la croix du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ce serait aussi formidable de les faire partager. Alors, le sujet, la croix, notre solution. On est peut-être allé vite en besogne en donnant pour titre la croix, notre solution. Et la question que j'aimerais poser d'abord, c'est: est-ce vraiment notre solution que la croix? C'est sans aucun doute la solution. Mais est-ce vraiment la solution que nous choisissons? Dans les injustices dont nous pouvons être les victimes, ou les épreuves qui nous atteignent, est-ce que nous choisissons la révolte ou la croix? Dans les offenses qui nous sont faites, est-ce que nous choisissons l'amertume ou la croix? Dans les difficultés qui nous accablent et qui parfois durent, dans les échecs que nous connaissons, nous choisissons l'abandon ou la croix? Dans les disputes, les tensions, les lassitudes, peut-être les infidélités, au sein de notre couple, nous choisissons le divorce ou la croix? Dans les querelles, les rivalités, les trahisons que l'on peut connaître entre frères au sein d'une église, est-ce que nous choisissons la division ou la croix? Pour régler le conflit le plus grand qu'ait connu le monde, opposant le Dieu saint et les hommes pécheurs, Dieu a choisi la solution de la croix. Il a choisi de ne pas nous faire payer ce que nous méritions, c'est-à-dire la mort, mais de nous donner ce que nous ne méritions pas, le pardon et la vie. Et puis ensuite de payer lui-même ce que nous méritions, ou la condamnation que nous méritions, la croix. La croix, c'est peut-être pas notre solution première, mais c'est la solution de Dieu. Le juste condamné et le coupable pardonné, c'est né uniquement dans le cœur de Dieu. Jamais un homme n'a écrit un tel scénario. Et c'est pour ça que la solution de Dieu, la solution de la croix, elle nous prend souvent à défaut, parce que ce n'est pas la solution naturelle qui vient dans notre cœur, la solution première. Et pourtant, on sait que la croix, c'est la seule solution qui soit véritablement efficace. On l'a vu pour la croix briser, et la solution efficace pour briser le cœur d'un brigand condamné à mort et le faire entrer le jour même dans le paradis. La croix, c'est la solution efficace pour transformer un persécuteur de l'Église en apôtre de Jésus-Christ. La croix, c'est la seule solution efficace pour réconcilier tout pécheur avec son Créateur, parce que le sang de cette croix efface toutes nos transgressions. Souvenez-vous du jour où vous êtes venu à Christ. Certainement, votre vie, elle était en miettes. Vous étiez désespéré. Vous crouliez sous un poids de culpabilité. Vous étiez incapable d'espérer qu'il y ait une solution à votre vie. Et puis là, au pied de Christ, vous avez trouvé un plein pardon. Et puis une vie nouvelle. Et puis l'impasse dans laquelle vous étiez a disparu. Les ténèbres dans lesquelles vous étiez, le brouillard dans lequel vous étiez, s'est levé d'un coup. Et la solution a fait jour dans votre vie. La croix, c'est la seule solution efficace pour donner un sens même à notre existence. L'apôtre Paul, il dit « Je supporte tout à cause des élus, pour l'Évangile, pour que les progrès de l'Évangile. » Et ça, c'est ce qui animait toute sa vie. Et est-ce que ça anime aussi la nôtre? Aussi, la croix, c'est la seule solution efficace pour réconcilier les frères entre eux. En Éphésiens, j'aimerais vous lire cela, au chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2, verset 16. Je reprends un petit peu plus haut. Il a voulu créer en lui-même, en Jésus-Christ, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. La croix, c'est ce qui a réconcilié les peuples. Il y a des associations chrétiennes entre Palestiniens et Israéliens. Ils sont en train de se déchirer à la face de ce monde, mais il y a des chrétiens qui sont d'accord et qui sont unis et qui s'aiment. Et entendre un arabe chanter la tikva, un palestinien louer l'Éternel et bénir le peuple d'Israël, mais c'est bouleversant. Et puis un juif prendre dans ses bras un Palestinien, c'est extraordinaire également. Eh bien, Dieu est capable. Et seule la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est la solution pour réconcilier des hommes. Alors, puisque nous avons expérimenté la solution efficace dans notre propre vie, puisque, on a vu, c'est la solution de Dieu, pourquoi est-ce que nous choisissons pas plus souvent la solution de la croix dans notre vie? Alors j'ai réfléchi à ça, j'ai trouvé que la croix est pas beaucoup choisie par nous dans les conflits, dans les décisions, dans les difficultés que l'on peut rencontrer, parce que la croix est toujours une solution coûteuse, humiliante, est mortel. Et regardez avec moi un petit peu plus loin dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ça, c'est des versets que vous connaissez par cœur. Il est dit ici, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, comme on l'a vu hier, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pour nous pardonner et pour nous sauver, Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire. Le prix le plus grand a été payé par Jésus-Christ. Il a quitté la gloire éternelle qu'il avait pour paraître comme un simple homme. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Vous connaissez la grâce, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Le prix a été terrible. l'humiliation de Jésus-Christ. Pour payer le prix de notre rançon, le juste a été traité comme un coupable. Soulignez le juste, parce qu'il n'y en a eu qu'un seul de juste. Il a été mis au banc des malfaiteurs. Le saint, celui qui était étranger au péché, a été fait péché pour nous. C'est ce que nous a encore dit hier Samuel, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Pour effacer notre condamnation, il a lui-même été condamné à mort, il a été moqué, il a été frappé, il a été humilié, il a été fouetté, il a été abandonné des siens et même de son père, et il a été crucifié, il est mort. Alors nous avons saisi au moins d'une manière partielle la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous, et la Bible dit qu'il attend de nous que nous empruntions la même voie que la sienne. Il l'a dit à plusieurs reprises, « Prends ta croix, suis-moi. » Il a dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est ce qu'on vient de lire. Il s'est humilié, il s'est dépouillé, il s'est fait serviteur, il n'a pas ouvert la bouche. Bien que la perte que nous pourrions connaître en venant à la croix, eh bien, ne soit qu'une peccadille comparée à ce que le Seigneur a connu lui, il y a pourtant quelque chose en nous qui se cabre. Il y a quelque chose en moi qui s'insurge quand cette pensée a l'idée de venir à la croix, l'idée que nous devrions être conduits à la croix. Pourquoi devrions-nous connaître pareille perte? Pourquoi devrions-nous connaître une pareille injustice? Pourquoi devrions-nous connaître une telle humiliation? Et il y a quelque chose en nous qui refuse ce chemin. C'est notre moi qui proteste vigoureusement, notre moi qui s'insurge, qui refuse d'abandonner ses droits, qui refuse d'abandonner, de perdre sa gloriole. L'orgueil est si enraciné au fond de notre cœur. Il est tellement enraciné, il est à la base de tout esprit de rancune, de toute amertume. Nous voulons utiliser notre bon droit et nous réclamons que justice nous soit faite. Nous réclamons réparation. Nous réclamons humiliation de la part des autres. Nous réclamons réparation de la part de ceux qui nous ont offensés ou lésés. Si Dieu avait choisi de nous traiter selon nos droits, selon la justice, vous savez ce qu'il nous aurait payé. La mort, c'était l'enfer pour chacun d'entre nous. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est qu'est-ce qui a donc poussé Jésus-Christ à la croix pour accepter une solution si coûteuse, si humiliante et mortelle? En quittant la gloire du Père, en acceptant Golgotha, Christ a renoncé à tous ses droits. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à agir de la sorte envers nous? La première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est l'amour pour le pécheur. En Romains chapitre 5, verset 8, le premier clou, il a été planté par l'amour, par amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu qu'on soit aimable pour mourir pour nous. Mais il nous a aimés et c'est en ça qu'il a prouvé pour toujours l'amour inconditionnel qu'il a envers nous à la croix. Cet amour qui excuse tout. Cet amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Combien cet exemple d'un amour triomphant peut nous aider à franchir le pas. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de pardonner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'obéir? Faites-le par amour. Par amour, non pas pour le juste, Il n'est jamais question d'aimer un juste à la croix. Faites-le par amour pour un pécheur, pour un homme qui devrait être condamné. Par amour, faites-le. Le chemin de la croix, c'est celui de l'amour. Le deuxième clou aurait été planté par l'obéissance. L'obéissance au Père. L'amour pour le pécheur, l'obéissance au Père. La Bible dit, on l'a lu, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous vous souvenez en ce passage en Hébreux chapitre 10, « Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et puis, lorsque Jésus était dans Gethsémané, il a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, par obéissance. » Il a accepté à la croix le renoncement à lui-même. Le troisième clou, c'est peut-être la gloire dont la croix devait être suivie. C'est-à-dire que Christ avait en vue la réconciliation éternelle. C'est cela qui lui a fait accepter cette croix. Il a vu la gloire promise à tous les pécheurs. La pensée de la réconciliation du Dieu créateur tout-puissant avec sa créature, la présence d'un pécheur dans la gloire, partageant la gloire éternelle de Dieu pour l'éternité, c'était extraordinaire. Et c'est dans cette perspective-là, dans la foi, dans la résurrection, que Christ a accepté ces choses-là. La croix a été suivie de la résurrection. Elle a été parfaitement efficace pour restaurer la communion entre Dieu et l'homme. Et même jamais la communion entre le Créateur et sa créature n'a été aussi étroite qu'après la croix. Parce que après la croix, le pécheur ou l'homme, la créature, a connu l'amour de Dieu. Elle a connu le cœur de Dieu. Avez-vous jamais été amené à demander pardon à quelqu'un? Ne serait-ce qu'à votre conjoint? Et là, devant la croix, vous demandez pardon. Et vous priez le Seigneur qui vous pardonne. Et vous répandez votre cœur devant l'autre. Après cela, il y a une dimension dans la relation qui est tout autre, à la fois entre votre Dieu, mais aussi avec votre conjoint, avec la personne que vous aviez offensée et avec laquelle vous êtes réconcilié aujourd'hui. Et le lien est plus fort et plus étroit, il est plus glorieux, parce qu'il est obligé de reconnaître que c'est l'œuvre de Dieu au milieu d'eux. Y a-t-il des choses difficiles à accepter aujourd'hui? En 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, l'apôtre Paul dit « Les légères afflictions du moment présent » produisent un poids éternel de gloire. Si les légères afflictions produisent un poids éternel de gloire, à combien plus forte raison un renoncement consenti volontairement, une souffrance acceptée volontairement, la mort, la mise à mort ou l'humiliation acceptée volontairement par amour, eh bien, produira un poids éternel de gloire. Alors, comment puis-je suivre le chemin de la croix? Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il n'y a pas de paix pour le méchant, il n'y a pas de paix pour le pécheur. La paix, elle vient quand on est à la croix et qu'on retrouve la paix avec son Dieu. Le joug que propose le Seigneur, c'est cette pièce de bois qu'on met sur les bêtes, sur le cou d'une bête. Le joug représente la volonté de Dieu. tandis que le cou représente la volonté de l'homme. Mais la volonté de l'homme, elle est obstinée, tenace, ou plutôt, comme disent les Écritures, elle est raide. Le cou est raide. De ce fait, le joug de la volonté divine n'est pas naturellement accepté par l'homme. Il nous faut donc courber la tête, pencher notre cou en un geste de soumission, si nous voulons nous parer de ce joug de Jésus-Christ, de la volonté de Christ. Ainsi, nous goûterons aussitôt le repos pour nos âmes. Si nous hésitons encore, regardons à Christ qui a porté ce joug en faisant entièrement la volonté du Père. Et suivons-le. Le joug, il est double. Il y a Christ qui a pris sa place et puis nous sommes attelés avec lui. Il n'y a rien qu'il ne nous demande qu'il n'accomplisse lui-même. Au contraire, il partage notre charge. Alors, accepter la croix, accepter le renoncement, c'est s'assurer de la présence de Jésus-Christ à nos côtés. Et ça devrait nous encourager à le faire. Ça devrait nous encourager à accepter cela. Mais malgré trois clous, la volonté de l'homme, la nature pécheresse de l'homme, elle se rebelle encore. Et elle se rebelle en disant toujours « Oui, mais ! Oui, mais ! C'est facile ! Oui, mais ! Oui, mais si l'autre ne se repent pas, est-ce que je devrais lui accorder mon pardon ? Est-ce que c'est une obligation ? » La réponse est oui, puisque Dieu en Christ nous a offert son pardon bien avant que la pensée du repentir nous ait jamais travaillé, avant que nous ayons accepté Christ. Potentiellement, le pardon existait déjà pour chacun d'entre nous. Oui, mais si le mal qui m'est infligé se répercute dans toute ma vie, pourrais-je seulement vivre un jour en paix? La réponse est oui. Dès l'instant où vous acceptez cette croix, vous serez en paix. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos pour vos âmes. La paix vient à l'instant où on accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. Le Père céleste désire que nous acceptions comme venant de sa main d'amour et que nous portions le joug qu'il nous a donné à porter. Et c'est ce que Dieu veut. Et puis, parfois encore le moi répond encore, mais se peut-il que le Dieu d'amour soit impliqué dans une affaire aussi ténébreuse ? Parce que parfois, les problèmes ne sont pas de la faute de Dieu. Ils ne sont jamais de la faute de Dieu. Mais on se dit, mais on n'a pas cherché Dieu, on s'est fait des problèmes. Et est-ce que Dieu nous a livrés à nos problèmes ? Est-ce que là, il nous a abandonnés ? Est-ce que le Dieu d'amour peut encore avoir un mot à dire dans cette affaire ? La réponse est encore oui. Rien ne peut nous atteindre qui ne soit permis par Dieu ou qui échappe à son contrôle. Il peut s'agir d'une attaque injuste et dure à notre égard, d'une blessure grave, mais quelle que soit son origine, lorsqu'elle m'a atteint, elle devient la volonté de Dieu pour moi. Elle a été permise pour des raisons sages et bonnes qui lui sont connues. Si donc je reste offensé et que je refuse d'accepter ce que Dieu a permis, je me rebelle contre Dieu et contre sa volonté. En outre, eh bien, ça me rend plus amer, plus malheureux encore. J'aimerais à présent prendre un exemple. Je pensais que le meilleur exemple, ce serait l'exemple du divorce. Mais parce que j'aimerais prendre le divorce dans son sens le plus large. Pas simplement comme la rupture légale du mariage civil, mais comme un désaccord, comme une désunion, comme une dissension, comme une rupture, comme une séparation. Et le divorce, il est devenu si facile aujourd'hui, si acceptable socialement. C'est la solution évidente et naturelle lorsque un couple ne s'entend pas et on le justifie. Le moi a toujours des ressources incroyables. Il dit, vous savez, c'est beaucoup mieux pour les enfants. C'est beaucoup mieux d'être séparés, que les enfants soient séparés de leur père, plutôt qu'ils ne vivent dans des perpétuels conflits. Mais c'est parce qu'on ne leur offre pas d'autres solutions. Mais il y a une autre solution. La solution, c'est celle de vivre en paix. On entrevoit bien cette solution. Ouh là là ! Mais on n'ose pas l'envisager. Trop coûteuse, trop humiliante, parfois mortelle, pour le moi. Alors, on préfère la solution du divorce. J'aimerais vous citer un verset en Ésaïe chapitre 50, le verset 1. Je trouve ça très fort. Ésaïe chapitre 50, verset 1. Il est dit ici, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Où est la lettre de divorce? Israël a été adultère spirituellement. Ils se sont détournés du Dieu vivant, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Pire encore, ils sont allés se tourner vers toute l'armée du ciel. Ils ont offert en sacrifice leurs propres enfants à Moloch, à Astarté, à tous les autres. Ils ont été abominables, pas une fois, pas deux fois, mais des dizaines de fois. Et lorsqu'il y avait une telle tension dans un couple, Dieu avait autorisé par Moïse de donner une lettre de répudiation, une lettre de divorce, de séparation avec son conjoint. Jésus a dit, c'est à cause de votre mauvais cœur que Moïse a permis une telle chose. Mais à l'origine, ça n'était pas comme ça. Et dans le cœur de Dieu, il dit, où est la lettre de divorce? Sortez-la. Si vous en avez reçu une de moi, sortez-la, j'aimerais bien l'avoir. Parce que dans la pensée de Dieu, le divorce n'est pas concevable. Et après avoir supporté je ne sais combien d'humiliations de la part de sa créature, Dieu l'a dit, je n'ai jamais envoyé de lettre de divorce. Parce que ce n'était pas la solution acceptable pour moi. La seule solution, c'était la croix. Et il l'a établi, et dans le prophète Ésaïe, dans les chapitres qui suivent, il l'explique d'une manière extraordinaire. La solution, c'est la croix. La plupart des divorces naissent non pas pour des désaccords profonds, mais pour de petits riens insignifiants, mais qui sont répétés dans la vie quotidienne. Et il y a des phrases difficiles, imprononçables presque, parle-moi, du style « je me suis trompé ». Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû. Et parce qu'elles ne sont pas prononcées assez souvent, ou parce qu'elles ne sont pas prononcées du fond du cœur, eh bien, les couples se brisent et les conséquences terribles s'en suivent. Dans les Proverbes, il est dit au chapitre 13, verset 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Qu'une a traduit, toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. C'est terrible. Parce que le moi n'arrive pas à dire « je me suis trompé, je te demande pardon, je n'aurais pas dû. » Ou parce que ces choses-là sont dites du bout des lèvres et ne proviennent pas d'un cœur qui a mesuré la grandeur de son péché, qui n'a pas pleuré sur son iniquité, qui n'a pas vu le désastre qu'il a provoqué. Eh bien, la solution de la croix ne peut intervenir. Le péché dresse une barrière entre Dieu et l'homme, et il en dresse également entre les hommes et leurs conjoints. La manière dont Dieu réconcilie l'homme avec l'homme n'est pas différente de celle qui réconcilie l'homme avec son Dieu. De quelque manière que commencent les difficultés, elles sont bientôt réduites à la formule « j'ai raison, tu as tort ».« J'ai raison, tu as tort ». Et on n'arrive pas à avancer. Le problème, c'est que la croix, la solution de la croix, elle n'est réservée qu'aux coupables. Un juste ne choisit jamais la croix. Dans sa signification, la croix, c'est nécessairement pour un coupable. Donc vous ne choisirez jamais la croix si vous n'êtes pas coupable. Mais si vous acceptez de venir à la croix, qu'est-ce que vous allez voir? On va voir le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui n'a jamais péché. C'est-à-dire qui a toujours eu raison et qui aura toujours raison. Se charger de tous les torts de l'humanité et mourir entre deux criminels. Alors, quand on vient à cette croix, peut-on encore soutenir que l'on a toujours raison? Même si nous n'avons pas complètement tort, avons-nous entièrement raison comme Jésus avait entièrement raison? Non, évidemment. Peut-être que l'autre a commencé, mais notre réaction vis-à-vis de lui n'a-t-elle pas été souvent mauvaise? Notre langage, notre pensée, notre attitude n'était-il pas fait de haine, de colère ou d'amertume? Nous ne pouvons pas dire que nous avions entièrement raison, loin de là. Et cependant, celui qui avait entièrement raison, il a pris la position de celui qui avait entièrement tort, afin de nous sauver de nos péchés, de nous réconcilier avec le Père. Alors pourquoi ne pas prendre la place de celui qui a tort et de le confesser? Paul a rencontré Onésime en prison et il l'a renvoyé vers Philémon. Et comme Onésime avait fait pas mal de tort à Philémon, il lui a dit: « Et s'il t'a fait quelque tort, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. » Paul était prêt à payer pour un coupable? Pour qu'une réconciliation soit autorisée. Et est-ce qu'on est prêt à payer quelque chose de notre personne pour garder l'unité, pour vaincre, pour triompher? On est émerveillé, nos jeunes ont parlé de ça hier soir, disant 22 000 à La Rochelle ont accepté la mort plutôt que de renier leur foi. Combien sont partis? 5 000 sont partis en galère à cause de leur foi. Et on est bouleversé par ces choses-là. On est bouleversé par cette mort-là. Et on se dit, oh là là, j'espère qu'un jour, si la chose devait se présenter devant moi, j'agirais de la même manière. Mes amis, si on n'est pas capable de mourir pour les petites choses qui nous préoccupent aujourd'hui entre frères, c'est sûr qu'on n'acceptera pas les galères. La mort, elle commence tous les jours, lorsque on doit renoncer à nos propres droits, à faire valoir nos droits. J'ai eu la tristesse de voir un couple se déchirer chez nous. 30 ans de mariage. Quand je suis allé rencontrer le mari, il m'a dit: je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai toujours tout fait pour elle. Je sais pas, je comprends pas ce qu'elle me reproche. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Le divorce a été prononcé il y a quelques jours. Visiblement, il n'avait pas emprunté la solution de la croix, puisqu'il n'était pas coupable. Mais la Bible dit que tout homme est coupable. Et si on arrive à faire bonne figure devant les hommes, généralement, notre conjoint, il sait qu'on est coupable. Et même devant elle, il résistait à cela. C'est triste. Parce que l'instant où on vient à la croix, eh bien, notre cœur est transformé. On reçoit le pardon de notre péché. Nos attentions sont différentes à l'égard de l'autre. Nos attentes sont différentes à l'égard de l'autre. Le timbre de notre voix est moins cassant et l'autre le remarque. Notre attitude pousse l'autre à se repentir à son tour de ses mauvais sentiments. Le brisement de Christ à la croix a provoqué le brisement de sa créature. Et ainsi, le brisement d'un conjoint à la croix provoquera certainement le brisement de l'autre. Et si il n'a pas lieu rapidement, nous jouissons, nous, en tout cas, après être allés à la croix, de la liberté. Nous n'avons plus de péché à désigner ou à pointer chez l'autre, mais nous jouissons du pardon de nos propres fautes et de la paix avec Dieu. Je connais une dame, elle est âgée maintenant, s'est mariée, était protestante, s'est mariée avec un homme volage. Quelque temps après leur mariage, elle se convertit à Christ. Et cet homme volage a commencé à papillonner autour. Ça se passait dans un village en Alsace. Et tout le village connaissait cette affaire. Elle est restée avec son mari. Elle a accepté. Elle a accepté de mourir à son honneur d'épouse. Elle a accepté de mourir à ses droits d'épouse. Par obéissance envers le Seigneur, par amour pour son pécheur de mari, et par la vue de la gloire de Dieu, elle est restée attachée à son mari. Et les choses ont duré. C'était au commencement où de l'automobile, là, on commençait à avoir des voitures dans les villages. Et alors le dimanche, le mari se baladait dans le village avec sa voiture, avec sa maîtresse à ses côtés et avec sa femme assise à l'arrière. Et cette femme-là, elle a accepté ces choses-là. Elle a accepté ça pendant des années. Jour après jour, elle est venue à la croix de Jésus-Christ pour trouver le secours dont elle avait besoin. Jour après jour, à la croix, elle a été renouvelée dans l'amour pour son mari. Jour après jour, elle a été renouvelée dans l'obéissance de Jésus-Christ à la croix. Jour après jour, elle a regardé à la gloire qui suivait la croix. Son mari est tombé gravement malade et sur son lit de mort, il a demandé pardon à sa femme. Sur son lit de mort, il a demandé pardon à Dieu. Il s'est converti. Elle n'a jamais vraiment pu vivre avec un chrétien. Mais celui-ci, elle le sait, au ciel, et cela pour l'éternité. Et puis, elle est allée trouver sa maîtresse, enfin, maîtresse de son mari. Elle lui a dit, c'est bon, je te pardonne de tout cela. Je n'ai rien contre toi. Je garde rien contre toi. Et cette femme-là a été bouleversée. Dans la folie de son cœur, elle a été brisée. Elle aussi est venue à Jésus-Christ. Cette femme, elle regardait à l'amour, à l'obéissance, et puis à la gloire qui suivait la mort de la croix. Et elle a accepté tout cela. Et je pense que c'est une femme qui serait prête à souffrir les galères, à partir dans n'importe quel camp pour l'amour de son Seigneur. Elle en a fait la démonstration. Acceptons-nous ce genre de mort à nous-mêmes ? On n'est pas pressé d'être mis en situation, je crois. Mais quand des petites situations arrivent, des petits pas d'obéissance, est-ce que nous les faisons ? Pour cela, il faut venir à la croix du calvaire. Il faut venir à Jésus-Christ. Parce que ces choses-là, elles n'habitent pas naturellement dans nos cœurs. On ne peut pas les trouver dans nos cœurs. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à cette croix. J'ai un frère qui est très handicapé, moteur, mais chaque fois que je l'ai au téléphone, il me dit, mais Vincent, on regarde toujours à la croix. Hein. On regarde à la croix, on regarde au Seigneur. Il a perdu son boulot, il a un traumatisme post-polio, là, il est infirme, il a des prothèses partout. Vincent, on regarde à la croix, hein, on est vainqueur. Oui, c'est vrai. À la croix, on est vainqueur. Si on essaye de vivre sans cette croix, c'est cuit. On est vaincu. Amen. Est-ce qu'on peut-être prier, puis ensuite essayer de répondre à des questions ou des témoignages ou des choses qui pourraient nous encourager. Seigneur notre Dieu, on a un cantique qui dit quand on contemple cette croix où tu as été crucifié à notre place, combien notre orgueil nous apparaît vain. Et Seigneur, pourtant, nous qui avons goûté à cette croix, à son efficacité pour notre propre vie, combien nous sommes peu enclins à y revenir. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons apprendre de toi, nous voulons fixer notre attention sur toi, nous voulons te prier que tu déverses dans nos cœurs les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour être capable de renoncer à nos propres droits, à nos privilèges, et à nous attendre à toi, à t'obéir, à aimer aussi le pécheur. Et Seigneur, si nous pouvons mesurer la grandeur de ton amour à la croix que tu as acceptée, on peut aussi mesurer la petitesse de notre amour pour les pécheurs, au peu de renoncement dont on fait preuve. Et Seigneur, nous voudrions qu'il en soit autrement. Apprends-nous, Seigneur, transforme nos cœurs, façonne-nous à ta ressemblance. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Amen. La croix, c'est la solution pour le pécheur. Je pense qu'ici, tout le monde a vécu, a expérimenté pour le salut de l'âme. La croix, c'est aussi la solution pour les difficultés de la vie. Et parfois, on n'a pas un problème avec quelqu'un, on a parfois un problème avec Dieu parce qu'une épreuve est là et on ne veut pas l'accepter. Alors on est en divorce, mais pas avec un homme, mais avec le Créateur. Parfois, et la croix, c'est la solution. Parfois, c'est des problèmes entre frères. Parfois, c'est un découragement. Vous savez, les choses se sont abattues sur votre vie, là, les unes après les autres, et vous êtes un peu cassé, et vous dites, ben, c'est bon maintenant, j'abandonne. Et tristement, parfois, on voit des missionnaires repartir. Ils ont lutté pendant des années, et puis voilà, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de... Alors, ils abandonnent. La croix, pourtant, c'est encore là la solution. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des témoignages qu'on pourrait donner ? On a du temps devant nous.